Deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre s'était proposé de visiter l'assemblée à Corinthe une seconde fois, mais s'était ensuite senti conduit à modifier ses plans. Il écrit cette deuxième épître pour leur en expliquer la raison et pour préparer la mise en œuvre d'un troisième projet pour une seconde visite. Déjà dans ces premiers temps, l'ennemi cherchait à corrompre la profession chrétienne par de faux apôtres, des ouvriers trompeurs et de faux frères. Chapitre 11, versets 13 et 27. L'apôtre craignait que de telles personnes aient opéré leur œuvre trompeuse à Corinthe, détachant les cœurs des saints de Christ, présentant de faux ministères, discréditant les vrais serviteurs de Christ, tout cela pour attirer des disciples après eux. Le long de son épître, Paul avertit les saints contre ces maux en présentant la vérité qui dévoile le mal. Il présente Christ dans la gloire, celui en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Chapitre 1. Il présente les saints sur la terre comme laissés ici-bas pour être la lettre de Christ. Chapitre 3. Il présente le vrai ministère de l'Esprit et les caractéristiques des vrais serviteurs du Seigneur par qui son œuvre est effectuée. Chapitre 5 et 6. En outre, il exhorte les saints à Corinthe à servir les autres en amour en donnant aux nécessiteux. Chapitre 8 et 9. Ayant mis devant eux Christ, son service, ses serviteurs et la grâce de Christ qui donne aux autres, il dévoile les fausses prétentions d'hommes mauvais qui cherchaient à corrompre les assemblées de Dieu en se présentant comme des anges de lumière et des ministres de justice. Chapitre 10 et 11. Chapitre 1er. Versets 1 et 2. Citation de l'Écriture. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée le frère à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans l'Achaïe tout entière. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. En écrivant sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul s'associe Timothée, qui leur était bien connu du fait qu'il avait travaillé au milieu d'eux. Et en s'adressant à l'assemblée, il inclut les saints en Achaïe dont Corinthe était la capitale. Il prend soin ainsi de montrer que, dans tout ce qu'il a à dire, il a la pleine communion de quelqu'un qui les connaît bien et que d'autre part, il ne les considère pas comme indépendants des autres assemblées du Seigneur. Versets 3 à 7. Citation de l'Écriture. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Car comme les souffrances du Christ abondent à notre égard, ainsi, par le Christ, notre consolation aussi abonde. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut qui est opéré en ce que vous endurez les mêmes souffrances que nous aussi nous souffrons, et notre espérance à votre égard est ferme. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, de même aussi vous avez part à la consolation. Fin de citation. L'apôtre commence son épître en rappelant ses épreuves. Il avait souffert la persécution de la part du monde et une grande affliction et de l'angoisse de cœur à cause du bas état qui avait existé parmi les saints à Corinthe, ceux-là même qui auraient dû être une source de joie pour lui. Chapitre 2, versets 3 et 4. Néanmoins, ces épreuves venant tant de l'intérieur que de l'extérieur du cercle chrétien étaient devenues l'occasion de faire l'expérience des compassions de Dieu et de sa consolation. David, en son temps, passa par des expériences similaires lorsque les orgueilleux se levaient contre lui et que les hommes violents cherchaient son âme. Il a pu dire alors « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux » ou de compassion. Et « Toi, ô Éternel, tu m'auras aidé et tu m'auras consolé. » Psaume 86, versets 15 et 17. L'expérience personnelle de la miséricorde, des compassions, et de la consolation de Dieu a eu un triple effet sur Paul. En premier lieu, elle est devenue une occasion de louange à Dieu, car il peut dire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il a été dit à juste titre que Dieu est toujours la première pensée de celui qui marche avec Dieu. Il en était ainsi autrefois du serviteur d'Abraham. Ayant fait l'expérience de ce que Dieu avait manifestement conduit, son premier acte fut d'adorer l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel ». Lorsque j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit. Genèse 24, versets 26 et 27. De même, quand Dieu est intervenu en miséricorde dans les épreuves de Daniel, sa première action a été de louer Dieu en disant « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui. » Daniel 2, versets 19 à 23. En second lieu, l'expérience qu'a fait l'apôtre des consolations et de la miséricorde de Dieu l'a rendu capable de consoler d'autres qui étaient dans l'affliction. En troisième lieu, dans les épreuves traversées par l'apôtre, il a fait l'expérience de la vérité des paroles du Seigneur aux siens. « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. » Luc 6, verset 40. Si le maître a souffert en traversant un monde de péché et de douleur, ses disciples ne peuvent que souffrir pareillement. Si dans notre petite mesure nous goûtons les souffrances de Christ, nous ferons aussi l'expérience des consolations de Christ. Ainsi, l'apôtre était capable d'apporter consolation et réconfort à ces saints qui enduraient de semblables souffrances. Dans le cas des saints de Thessalonique, qui subissaient des persécutions et des tribulations, il pouvait aussi les remettre à Dieu, qui nous a donné une consolation éternelle pour consoler leur cœur. 2 Thessaloniciens 1, verset 4, 2, versets 16 et 17. Plus tard, en prison, il pouvait encore parler au sein de Philippe de la consolation en Christ. Philippiens 2, verset 1, Éphésiens 6, verset 22, Colossiens 2, verset 2 et 4, verset 8. Ainsi, l'espérance de l'apôtre à l'égard de ses saints demeurait ferme. Il ne craignait pas pour eux à cause de leurs épreuves. Il comprenait que, s'ils avaient à endurer des souffrances, ils jouiraient aussi de la consolation. Versets 8 à 18. Citation de l'Écriture. « Car nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez, quant à notre affliction qui nous est arrivée en Asie, que nous avons été excessivement chargés, au-delà de notre force, de sorte que nous avons désespéré même de vivre. Mais nous-mêmes, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous délivre, en qui nous espérons qu'il nous délivrera aussi encore, vous aussi coopérant par vos supplications pour nous, afin que, pour le don de grâce qui nous est accordé par le moyen de plusieurs personnes, des actions de grâce soient rendues pour nous par plusieurs. Car notre gloire est celle-ci, savoir le témoignage de notre conscience qu'avec simplicité et sincérité de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes conduits dans le monde et plus encore envers vous. Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin, comme aussi vous nous avez reconnus en partie, que nous sommes votre sujet de gloire comme vous êtes aussi le nôtre dans la journée du Seigneur Jésus. Et dans cette confiance, j'avais voulu aller auprès de vous d'abord, afin que vous eussiez une seconde grâce, et, par chez vous, passer en Macédoine, et de Macédoine, de nouveau aller auprès de vous, et puis que vous me fissiez la conduite vers la Judée. En me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté? Ou les choses que je me propose, me les proposais-je selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui? Oui, et le non, non. Mais Dieu est fidèle, que notre parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non. » Fin de citation. L'apôtre fait ensuite référence aux épreuves sévères qu'il avait traversées en Asie. La pression tombée sur lui dépassait les forces humaines. Il avait désespéré même de vivre. Néanmoins, il avait pu constater qu'aucune épreuve ni aucune opposition que le chrétien doit affronter ne dépasse le puissant soutien de Dieu. L'apôtre pouvait désespérer de vivre, mais il ne désespérait pas de Dieu. Même face à la mort, et une mort violente entre les mains des méchants comme son maître, Pourtant Dieu était plus fort que la mort. Ainsi, dans ses grandes épreuves, il avait dû apprendre sa propre faiblesse et la toute-puissance de Dieu afin qu'il ne se confie pas en lui-même, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Regardant en arrière, il peut dire « Dieu m'a délivré ». Regardant autour de lui, il peut dire « Dieu délivre ». Et regardant en avant, il peut dire « Dieu délivrera encore ». Or, ce que Paul pouvait dire dans ses grandes épreuves, le croyant le plus simple a aussi le privilège de le dire avec autant de confiance en Dieu. En outre, l'apôtre reconnaît avec joie la communion des saints de Corinthe à son égard dans ses épreuves. Ils avaient coopéré dans la prière pour l'apôtre pour que la grâce qui lui était accordée puisse avoir son effet pour la bénédiction des âmes et donc conduire à des actions de grâce à Dieu. Ils pouvaient en confiance compter sur leur prière, car sa conscience témoignait de la pureté de ses motifs dans son service. Il avait servi en simplicité avec un œil non double et avec sincérité devant Dieu. Son service n'était pas le fruit d'une sagesse charnelle qui aurait fait ce qui est juste pour des motifs de politique humaine, comme cela arrive si souvent. Comptant ainsi sur leur prière et sur ce qu'il reconnaîtrait ce qu'il leur disait dans sa lettre, il peut se réjouir en eux comme il se réjouissait en lui, ayant tous en vue la journée du Seigneur Jésus. Cette confiance mutuelle l'amène à expliquer ces déplacements dont certains auraient pu penser qu'ils avaient été modifiés à la légère, ce qui affaiblissait leur confiance en lui. Il s'était proposé de leur faire une seconde visite. Et, bien qu'il ait changé ses plans, ce n'était pas à la légère, comme s'il agissait avec l'indécision de la chair. Ainsi, il pouvait vraiment déclarer devant Dieu que sa parole qu'il leur avait adressée n'était pas « oui » et « non ». Versets 19 à 22. Citation de l'Écriture. « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, savoir par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été « oui » et « non ». Mais il y a « oui » en lui, car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. » Fin de citation. Cela conduit les pensées de l'apôtre vers Christ, le modèle parfait de toute conduite chrétienne. Paul et ses compagnons de travail prêchait le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il n'y a aucune incertitude avec cette glorieuse personne, aucun oui et non, aucun peut-être ou peut-être pas. La vérité présentée en lui et par lui ne change pas. En lui, tout était oui, c'est-à-dire sûr et certain. Ayant le cœur rempli de Christ, l'apôtre est conduit en quelques phrases concises à donner une belle présentation de Christ, des privilèges chrétiens, et de la manière choisie par Dieu pour nous faire entrer dans nos privilèges. D'abord, il présente Christ comme le oui et l'amen. Quand on lit les épîtres, il est important de voir la manière particulière dont Christ est présenté. Les saints de Corinthe avaient été dans un bas état moral, faisant grand cas de l'homme, et, en conséquence, ils oubliaient ce qui est dû à Dieu. Pour faire face à cet état, l'apôtre, dans sa première épître, leur avait annoncé Christ crucifié et Christ ressuscité. Car la croix met de côté la gloire de l'homme, tandis que la résurrection maintient la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 17, 18 à 23, 2, verset 2, et 15, verset 4. Dans cette seconde épître, Christ est d'abord présenté, dans ce verset, comme le oui et l'amen, et ensuite, au chapitre 4, comme glorifié pour conduire ses saints dans toute la plénitude des bénédictions chrétiennes telles que présentées en Christ, de sorte qu'occupé de lui dans la gloire, il puisse être changé en son image. Nous pouvons nous demander quel est le sens de cette déclaration concernant Christ, qu'en lui est le oui et en lui l'amen. Dans l'Ancien Testament, il y a des promesses faites par Dieu pour la bénédiction de la postérité d'Abraham et pour la bénédiction des gentils par le moyen d'Israël. Cependant, une grande difficulté empêchait l'accomplissement de la bénédiction. Sur toute la scène, il y avait l'ombre sombre de la mort. Comment donc les promesses seraient-elles accomplies? Abraham, à qui les promesses furent faites, mourut. Isaac et Jacob moururent, comme nous le lisons. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises. Hébreux 11, verset 13. Si quelque grand avantage est promis à un homme pour dans un an, et qu'il meure avant ce terme, comment la promesse peut-elle être accomplie? Il est clair que de grandes promesses de Dieu sont parsemées à travers les pages de l'Ancien Testament, mais la mort se dresse toujours là, obstruant le chemin de leur réalisation. Finalement est arrivé celui en qui il n'y avait rien qui soit digne de mort, acte 13, verset 28, et qui ne pouvait pas être retenu par la mort bien qu'il soit entré dans la mort, acte 2, verset 24. Ainsi, on a enfin trouvé un homme qui était le oui et l'amen vis-à-vis des promesses de Dieu. En tant que le oui, il est celui en qui la bénédiction de toute promesse est annoncée, et en tant que l'amen, il est celui par qui toute promesse est accomplie. Voilà donc la présentation de Christ dans cette seconde épître. Or, la manière dont Christ est présenté dans toutes les épîtres est en harmonie avec les doctrines particulières de l'épître. Dans cette épître-ci, une prédominance est donnée aux grandes vérités de la Nouvelle Alliance, chapitre 3, et de la réconciliation, chapitre 5. Dans les affaires des hommes, un testament ou dernière volonté énonce les dispositions du testateur envers ceux qui en reçoivent les avantages. Ainsi, dans la Nouvelle Alliance, ou Nouveau Testament, nous apprenons ce que Dieu est dans sa bonté pour l'homme. La réconciliation annonce ce que l'homme est pour Dieu. En effet, elle énonce ce que tout sera pour Dieu, car non seulement les hommes doivent être réconciliés, mais toutes choses aussi doivent l'être, tant les choses sur la terre que celles dans les cieux. Colossiens 1, verset 20. Regardant la scène au-delà de la mort, il se dresse devant nos yeux la vision d'un vaste univers de délices dans lequel tous et tout seront en plein accord avec Dieu et seront donc une scène où Dieu pourra se reposer avec une parfaite satisfaction. La manière dont Christ est présenté dans l'Épître correspond parfaitement à ces vérités, car en Christ, nous voyons parfaitement exposées les dispositions prises par Dieu envers les hommes. En Christ encore, nous voyons parfaitement exposées tout ce que Dieu voudrait que nous soyons pour lui. Par là-dessus, nous savons que tous les désirs du cœur de Dieu seront accomplis par le moyen de Christ. Ensuite, l'apôtre aborde les immenses privilèges du chrétien. Si toutes les promesses sont annoncées et accomplies en Christ à la gloire de Dieu, cela signifie que ces promesses sont assurées pour les croyants à la gloire de Dieu par nous. Ainsi, au cours de l'Épître, l'apôtre insiste sur notre témoignage dans le monde en tant que l'être de Christ. La gloire de Dieu implique la manifestation de Dieu dans sa nature. Nous pouvons facilement comprendre que toute la gloire de Dieu est présentée en Christ, mais la merveille de la grâce est le dessein de Dieu que sa gloire soit manifestée par nous. Que ceux qui autrefois manifestaient les terribles effets du péché soient maintenant chargés de manifester la gloire de Dieu. De plus, cette manifestation de la gloire de Dieu dans les saints n'est pas simplement future, mais déjà actuelle dans ce monde. Il est évident que, lorsque l'apôtre parle un peu plus loin d'être changé de gloire en gloire, au chapitre 3, il a le présent en vue. Nous savons que le dessein de Dieu aura son plein accomplissement dans l'assemblée, dans la gloire, car la première marque de la sainte cité, quand elle descendra du ciel, sera d'avoir la gloire de Dieu. Apocalypse 21, verset 10. Mais c'est aussi le dessein de Dieu que, tandis que les croyants traversent ce monde où ils étaient auparavant esclaves du péché et produisaient les fruits de l'injustice, ils deviennent les serviteurs de Dieu pour faire luire la gloire de Dieu. Ensuite, on voit la manière dont Dieu opère pour que sa gloire soit manifestée en nous. Dans ce but, Dieu nous a liés fermement à Christ, nous a oints, nous a scellés et nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. En premier lieu, Dieu nous lie fermement à Christ. Il y a une œuvre de Dieu dans l'homme intérieur afin que Christ habite par la foi dans nos cœurs. Éphésiens 3, verset 17. Nous reconnaissons la nécessité d'avoir de l'énergie dans les choses de Dieu et du zèle à son service, mais par-dessus tout, nous avons besoin du secret de l'énergie, un cœur attaché à Christ. En second lieu, ayant le cœur attaché à Christ, nous sommes introduits dans la connaissance des vérités divines et des personnes divines par l'onction de l'Esprit. L'onction parle de l'intelligence divine donnée par le Saint-Esprit selon que nous lisons dans l'Épître de Jean « Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. » 1 Jean 2, verset 20. Et un peu plus loin, « La même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses. » 1 Jean 2, verset 27. Dans les choses divines, l'affection vient avant l'intelligence. On le voit dans la prière de l'apôtre en Éphésiens 3, où il prie d'abord pour que Christ habite dans nos cœurs et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Versets 17 et 18. Cela correspond au fait que Dieu nous lie fermement à Christ. Puis ensuite, la prière se poursuit ainsi, afin que vous soyez capables de comprendre. Cette compréhension, ou intelligence, est l'effet de l'onction, par laquelle le croyant a la possibilité d'entrer dans la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de tous les conseils de Dieu. En troisième lieu, ce passage nous rappelle que les croyants sont scellés par Dieu. Le sceau, comme on l'a souvent dit, est la marque que Dieu met sur le croyant comme preuve que nous sommes à lui. Le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais ils peuvent voir le changement de la vie du croyant sous l'effet de l'habitation de l'Esprit en lui. C'était le cas des Thessaloniciens. Ils avaient reçu la parole avec beaucoup de tribulation et la joie de l'Esprit-Saint. 1 Thessaloniciens 1, verset 6 à 8. Et cela avait eu pour résultat qu'ils étaient devenus imitateurs du Seigneur, un modèle pour tous ceux qui croient, et leur foi en Dieu s'était répandue partout. Voilà le résultat d'être scellés et la preuve qu'ils appartenaient à Dieu. En quatrième lieu, les croyants jouissent des arts de l'Esprit, par lesquels ils sont rendus capables d'avoir un avant-goût des bénédictions du vaste héritage de gloire qui est déjà le leur et dans lequel ils seront bientôt introduits. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Ainsi, nous apprenons que Dieu nous lie fermement, nous a oints, nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit. Étant liés fermement, nous regardons en arrière à la croix pour apprendre tout l'amour de Christ. Par l'onction, nous regardons en haut dans la gloire vers Christ pour être rendus intelligents dans tous les conseils divins. Par le sceau, nous devenons témoins de Christ dans le monde autour de nous, montrant que nous appartenons à Dieu. Et par les arts, nous regardons à l'héritage quand nous serons avec Christ et comme Christ. Versets 23 et 24. Citation de l'Écriture. Or moi, j'appelle Dieu à témoin sur mon âme, que ça a été pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe, non que nous dominions sur votre foi, mais nous coopérons à votre joie, car c'est par la foi que vous êtes debout. » Fin de citation. Dans les deux derniers versets du chapitre 1, l'apôtre explique que, s'il n'avait pas visité Corinthe une seconde fois, c'était pour leur épargner un chagrin supplémentaire. Il n'avait aucun désir de prendre la place de quelqu'un dominant sur la foi des saints, mais plutôt d'être avec les autres croyants comme de ceux qui coopèrent à la joie du service du Seigneur. C'est par la foi dans le Seigneur que nous sommes debout, non par la foi l'un dans l'autre.